Europe 1, le 22-22-30, Julien Pierce.
Bonsoir et bienvenue sur Europe 1, c'est le journal de la nuit, tout ce qui s'est passé aujourd'hui et surtout tout ce qui se passera demain. C'est parti pour 30 minutes d'info. Il est 22h, vous êtes sur Europe 1.
On continuera de prendre les décisions comme on l'a fait depuis le début, qui sont des décisions pragmatiques, proportionnées, territorialisées, mais qui correspondent à la vie de l'épidémie.
Des décisions, oui, mais lesquelles? Que va décider Emmanuel Macron pour la région parisienne et les Hauts-de-France? On sera fixé demain à 18h. En attendant, le président consulte, pèse et sous-pèse. Les médecins réanimateurs, eux, ont tranché. Ils veulent un confinement 7 jours sur 7. Une option radicale dictée par ce constat. Il n'y a plus de place dans les services de réanimation franciliens. La stratégie du transfert massif de patients est pour l'heure un échec. La plupart des familles refusent de laisser leurs proches partir. L'actualité ce soir, c'est aussi la crainte de nouveaux débordements à Blois. La ville a été le théâtre hier de violences urbaines à la suite d'un grave accident de voiture. Refus d'obtempérer. Un adolescent de 15 ans est entre la vie et la mort. Dans ce journal également, vent de guerre froide entre Moscou et Washington. Vladimir Poutine est-il un tueur? Oui, répond Joe Biden. Vent de folie à la première vente aux enchères de crypto-monnaies en France. 24 millions d'euros pour 611 bitcoins. Et puis vent de révolte pour le PSG. Les Parisiens se rassurent après leur victoire face à Lille en Coupe de France. La météo, elle sera quasi identique demain, avec toujours de l'humidité, des nuages et des chutes de neige dans l'Est et des éclaircies dans l'Ouest. Les températures, elles, vont continuer de baisser, nous dira Anissa Haddadi. La Bourse de Paris, elle a clôturé ce soir à l'équilibre, moins 0,01% à 6054 points. Et tous les détails à venir dans Top à Wall Street avec Claire Lemaître de Boursier.com. L'interview écho dans 20 minutes. Les centres commerciaux s'inquiètent de possibles fermetures avant les annonces demain de Jean Castex. Pour en parler, Emmanuel Duteil reçoit ce soir Gontran Turing, le directeur général du Conseil national des centres commerciaux. Enfin, on découvrira ensemble les unes de vos journaux de demain.
Europe 1. Écoutez le monde changer.
Confinement, pas confinement, et si oui, sous quelle forme? Autant de questions abordées ce matin en Conseil de défense. Avant des annonces, demain à 18h, ce sera Jean Castex qui prendra la parole. Au cœur de toutes les inquiétudes, deux régions, les Hauts-de-France, mais aussi l'Île-de-France, où tous les indicateurs sont au rouge. Le taux d'incidence y a encore grimpé aujourd'hui. Il est de 425 cas pour 100 000 habitants, soit bien au-dessus du seuil d'alerte maximal qui est de 250. L'heure est donc aux derniers arbitrages et c'est manifestement un casse-tête pour l'exécutif, Jean-Rémy Baudeau.
Oui, casse-tête, Julien, car l'exécutif poursuit sa stratégie, celle de ne pas uniquement se baser sur les chiffres sanitaires, mais de prendre en compte l'impact économique, social, mental des restrictions. Ce que l'on sait à l'heure actuelle, le principe de nouvelles restrictions a été acté en Conseil de défense ce matin. Le temps est donc à l'ajustement. Où placer le curseur? Il faut discuter avec les acteurs locaux, les politiques, les administrations. Pour l'Île-de-France et les Hauts-de-France, deux scénarios, confinement semaine ou confinement week-end avec couvre-feu. À l'Élysée, on veut étudier jusqu'au bout toutes les possibilités, les transferts de patients, l'utilisation encore plus forte du privé, encore plus de déprogrammation, voire même des transferts de soignants qui viendraient de régions moins touchées pour aider les régions saturées. Mais sur le fond, le message est clair. De nouvelles mesures seront prises. Gabriel Attal, porte-parole du gouvernement.
Pour ce qui est des mesures, elles s'adapteront à la situation sanitaire dans chacun de ces territoires. Ces mesures peuvent aller d'un renforcement très fort de notre politique testée, alertée, protégée pour ces départements contigus, jusqu'à des mesures supplémentaires qui peuvent aller jusqu'à un confinement dans les territoires où la situation épidémique est nettement plus préoccupante.
Emmanuel Macron, qui a visité cet après-midi l'hôpital de Poissy, il a dit aux soignants « on prendra les décisions qu'on doit prendre ». Il dit « assumer », mais attention, il reste moins de 24 heures avant les annonces. Et il faut se rappeler que ces derniers mois, Emmanuel Macron a parfois pris le contre-pied des scientifiques et des pronostics.
Jean-Rémy Baudeau du service politique d'Europe 1. Je vous en parlais hier soir dans ce journal. Avant de trancher, Emmanuel Macron a tenu à s'entretenir avec des médecins réanimateurs pour voir s'il reste des marges de manœuvre dans les services franciliens. Eh bien, leur réponse a été sans détour. Nous sommes arrivés à un point de rupture, comme l'explique le professeur Jean-Michel Constantin qui a participé à cet échange. Il est le chef du service anesthésie-réanimation à l'hôpital de la Pitié-Salpêtrière à Paris et il plaide pour un reconfinement 7 jours sur 7 en Île-de-France.
Vu l'état des structures hospitalières, on préférait que ce soit un confinement total pour freiner plus fort. On a sur la Pitié-Salpêtrière une place de disponible sur 4 réanimations qui font du Covid. Donc vous voyez, on a une marge de manœuvre qui est très très faible. Le risque à court terme, c'est qu'on mette en danger, parce que pour augmenter le nombre de patients qu'on va prendre en compte, on va être obligé de diminuer la qualité du service rendu et la sécurité que l'on met. Et deux, il va falloir qu'on sélectionne les patients qui nécessitent de la réanimation. C'est-à-dire qu'entre deux patients qui devraient être réanimés, on ne pourra pas prendre tout le monde. Et ça, clairement, on ne l'a pas fait depuis le début et nous ne voulons pas en arriver là. Quelle que soit la décision, il faut qu'elle soit prise vite. Tard ne veut pas dire trop tard. Et probablement que la distinction entre tard et trop tard est en train de se jouer dans les heures et les jours qui viennent.
Le professeur Jean-Michel Constantin, joint pour Europe 1 par Romain Noquet. Gagner du temps, c'était la stratégie du gouvernement pour éviter un nouveau confinement. Déprogrammation dans les hôpitaux, pousser les murs pour libérer des lits, insuffisant, on vient de l'entendre. Restait la solution des transferts de patients vers d'autres régions, sauf que là aussi, ça coince. Seuls 10 malades franciliens ont été évacués ces 3 derniers jours. Il semblerait que beaucoup de familles soient réticentes à voir leurs proches envoyés à l'autre bout de la France. Et pourtant, des hôpitaux ont tout prévu pour accueillir ces patients et ainsi soulager les services de réa d'Île-de-France. C'est le cas en Nouvelle-Aquitaine, Stéphane Place.
Oui, contrairement à ce qui était encore envisagé en début de semaine, avec des contacts avancés d'ailleurs avec la SNCF, il n'est plus du tout question d'affréter ces prochains jours des chardons, le nom donné à ces TGV médicalisés pour transporter, et c'est ce qui était prévu en l'occurrence, une 50aine de patients d'Île-de-France dans les hôpitaux de Nouvelle-Aquitaine. Principale difficulté pour organiser ces transferts, explique le docteur Bénédicte Lebillon de l'agence régionale de santé, obtenir le feu vert des familles.
Le contexte a changé. Finalement, les familles, l'année dernière, étaient en visioconférence avec leurs parents parce que tout le monde était confiné, ne voyaient pas d'obstacle à ces transferts parce que la visio se fasse avec Paris ou avec Mont-de-Marsan ou avec Bordeaux, ça ne changeait rien pour eux. Aujourd'hui, la situation est différente. Ils ont le droit de visiter, évidemment, leurs patients. Et là, pour eux, c'était déjà une grande difficulté. Par ailleurs, ces patients Covid intubés, ventilés, très graves, présentent des critères d'instabilité qui parfois ne permettent pas de valider le transfert et ça se fait parfois à la dernière minute. Donc on nous a confirmé qu'aujourd'hui la région Île-de-France ne ferait pas de transfert de grande ampleur.
Donc vraiment au cas par cas et dès demain en principe, 3 malades d'Île-de-France seront transférés en Nouvelle-Aquitaine en hélicoptère, 2 au CHU de Poitiers et le 3e, d'après ce que nous disait l'ARS, à l'hôpital de Niort.
Stéphane Place, correspondant d'Europe 1 à Bordeaux. C'est aussi demain que l'Agence européenne des médicaments rendra son avis sur le vaccin AstraZeneca, suspendu pour l'heure dans de nombreux pays, dont la France. À la mi-journée, le porte-parole du gouvernement s'est dit optimiste sur un feu vert de l'EMA. Suspension ne veut pas dire défiance, selon Gabriel Attal. Il semblerait pourtant que le mal est déjà fait. Seulement 22% des Français jugent ce vaccin fiable, selon un sondage de l'Institut ELAB.
Écoutez le monde changer. Europe Soir. Le 22-22-30.
Soirée sous haute tension dans la ville de Blois, dans le Loir-et-Cher. Théâtre la nuit dernière de violentes émeutes urbaines. Un jeune a été très grièvement blessé, Gladys Laffitte. Est-ce qu'on en sait plus sur l'élément déclencheur de ces violences ?
Oui, c'est un accident de la route qui a été la conséquence d'un refus de se soumettre à un contrôle de police de la part d'un chauffard avec 2 passagers à son bord. Ils sont poursuivis par la BAC dans un premier temps. Une poursuite qui s'arrête assez vite hein, car le conducteur roule très dangereusement à tel point qu'il grille un feu rouge et vient percuter une autre voiture. Le temps que la police arrive, le chauffard s'enfuit. Ses 2 passagers de 18 et 15 ans sont blessés. Le plus jeune grièvement, il est toujours entre la vie et la mort. La rumeur circule alors que ce serait la police qui aurait causé l'accident. Ce qui est faux, explique le procureur de la République de Blois, Frédéric Chevalier.
La vérité, c'est que voilà, on essaie de trouver une petite étincelle qui vient mettre le feu. C'est par la persévérance d'une conduite inadmissible, dangereuse pour les autres usagers de la route, que l'accident est intervenu.
De nombreuses violences ont donc suivi toute la nuit. Supermarchés vandalisés, stations-service incendiées et forces de l'ordre prises à partie. Pour éviter que cela ne recommence cette nuit, un dispositif impressionnant, des propres mots du préfet du Loir-et-Cher, est mis en place ce soir avec près de 300 forces de l'ordre dans la ville de Blois.
Gladys Laffitte du service police-justice d'Europe 1. Le metteur en scène de théâtre Alain Françon a été grièvement blessé à l'arme blanche aujourd'hui à Montpellier. Il a été poignardé au cou et son pronostic vital qui était engagé passagers ce matin ne l'est plus ce soir. On ne connaît pas encore les circonstances de cette attaque, mais la piste terroriste serait pour l'instant écartée. L'auteur du coup de couteau est en fuite. Âgé de 76 ans, Alain Françon a reçu un Molière en 2016. Notez que le procès de l'affaire Big Malion est renvoyé au 20 mai en raison de l'hospitalisation pour Covid de l'avocat de Jérôme Lavrieux, l'un des personnages clés de ce dossier. C'est lui qui avait révélé l'existence de fausses factures pour masquer les dépassements des comptes de la campagne présidentielle de Nicolas Sarkozy en 2012. L'ancien président qui n'était pas présent à l'audience aujourd'hui. Venons-en maintenant à cette petite phrase qui en dit long sur les relations entre Washington et Moscou. Elle a été prononcée hier aux États-Unis sur la chaîne ABC. Question directe du journaliste à Joe Biden. Pensez-vous que Vladimir Poutine soit un tueur ? Le président américain répond par l'affirmative. Écoutez.
So you know Vladimir Putin, you think he's a killer?
I do,
oui, je le pense. Didier François, c'est violent, très violent et pas courant d'entendre le président des États-Unis traiter son homologue russe d'assassin.
Oui, alors c'est un jugement assez peu diplomatique, en tout cas très inhabituel de la part d'un chef d'État. Et il a évidemment déclenché la fureur du Kremlin. Parce que même si ce n'est pas Joe Biden, mais le journaliste qui a prononcé la phrase qui fâche, on comprend parfaitement à l'écoute de l'interview que c'est bien là la conviction profonde du nouveau président des États-Unis. Ce qui est d'ailleurs une prise de position radicalement différente de celle que défendait son prédécesseur, Donald Trump, ayant pris grand soin de ménager Vladimir Poutine pendant toute la durée de son mandat et en allant souvent contre les avis de ses agences de renseignement. Eh bien, désormais, c'est tout le contraire, puisque cette saillie présidentielle intervient le même jour que la publication par les services américains d'un rapport très circonstancié sur les manœuvres d'influence menées par la Russie durant les dernières élections. On est donc bien entré dans une nouvelle phase des relations entre la Maison-Blanche et le Kremlin, qu'on va qualifier, allez, de rugueuse. Le message étant assez clair, désormais, Washington ne se tait plus, ne restera plus sans réagir lorsque Moscou tentera de s'ingérer dans ses affaires intérieures.
Éclairage signé Didier François pour Europe 1. Retour en France avec cette vente aux enchères historique et insolite. Pour la première fois dans notre pays, les lots proposés étaient immatériels. Pas de tableaux, de meubles ou encore de bijoux, mais des bitcoins, c'est de la crypto-monnaie qui n'a rien de sonnante et trébuchante. Ce qui n'a pas empêché les acheteurs de s'enflammer. Le montant total des enchères a de quoi faire tourner les têtes, Clément Le Saffre.
Et oui, 24 millions d'euros, une somme astronomique pour 611 bitcoins saisis par la justice parmi les avoirs de criminels arrêtés en 2020. Ils étaient répartis en lots allant du dixième de bitcoin à 20 bitcoins. Tout a été vendu avec des enchères souvent enflammées.
401 830 sur le net. 401 850. C'est vu à 401 850.
Voilà, vous l'entendez, des sommes folles ont été dépensées toute la journée à l'image de la folie autour du Bitcoin. Le cours s'est envolé ces derniers mois, il vaut aujourd'hui 46 000 euros. Pour les investisseurs, c'était donc l'occasion d'en acquérir à des prix un peu inférieurs à ceux du marché. Et ce soir, c'est l'État qui se frotte les mains, ces Bitcoins ayant été saisis et mis en vente sur décision de justice. Les bénéfices iront directement dans les caisses publiques.
Et ça ne leur fera pas de mal. Merci Clément Le Saffre. Après les salles de vente aux enchères, allons faire un tour au casino.
Oui, ce type. Pierre-Luc, la carte retournée du croupier. Il fait des signes à son petit copain à l'autre table. Et c'est exactement ce qu'ils cherchent, ces entubeurs. Ils écument les casinos en flairant les croupiers faiblards comme les loups flairent la biche aux abois.
Vous avez reconnu la voix française de Robert De Niro. Et bien malheureusement, elle s'est éteinte. Le doubleur et acteur Jacques Frantz est décédé aujourd'hui. Il avait 73 ans. Il prêtait sa voix également à Mel Gibson, Nick Nolte ou encore Tom Selleck. On termine avec le foot et ce face-à-face qui avait lieu en début de soirée entre le PSG et Lille. 8e de finale de Coupe de France remportée par les Parisiens, succès 3-0 qui rassure le club de la capitale, Julien Froment.
Ouais, effectivement, victoire qui fait du bien après la défaite en Ligue 1 contre Nantes et l'affaire des cambriolages qui ont touché Marquinhos et André Di Maria. Paris avait besoin de se redonner de l'air, voilà qui est chose faite. 3-0 sans la manière, mais avec de l'efficacité. 2 buts encore pour Kylian Mbappé, le gardien de but Keylor Navas qui arrête encore un pénalty. De quoi faire le plein de confiance avant le déplacement de dimanche sur la pelouse de Lyon pour le choc de la 31e journée.
Des Parisiens qui, pour une fois, ont été galvanisés par leurs supporters, Julien.
Oui, dire, en l'espace d'une heure, on s'est cru un peu dans le monde d'avant. 300-400 supporters ultra que vous entendez, masqués hein, pour la plupart, ont accueilli le car du PSG juste avant son arrivée au Parc des Princes. Fumigène, chants, pétards, enfin tout le rythme habituel des ultras. Bref, hein, entre le confinement et le couvre-feu, c'était impossible pour eux d'apporter un soutien concret à leur équipe. Voilà qui est chose faite. Comme l'explique Nicolas Beaufredo, c'est le patron du collectif Ultra Paris. Il est très rare dans les médias.
On joue un petit peu avec l'horaire du match à 17h45. Là, il n'y a pas de couvre-feu, il n'y a pas toutes ces règles, etc. autour du Covid. Donc, on en profite. Voilà, ça permet aux gens de se voir, ça permet de réunir aussi le collectif. Donc, c'est important pour nous d'être là aujourd'hui, ouais, de les booster.
Voilà, il faut croire que ce cortège a eu un effet positif hein, avec cette victoire 3-0. Les ultras privés de stade depuis maintenant un an et ce qui espère désormais bien retrouver les tribunes au plus vite pour continuer de soutenir avec ferveur leur équipe.
On suivra ça. Merci beaucoup, Julien Froment du service des sports d'Europe 1. Il y a aussi de la Ligue des Champions ce soir, les derniers huitièmes de finale retour. Le Bayern Munich est en train de mener face à la Lazio Rome 1-0. Les Allemands l'avaient emporté 4-1 à l'aller. Ils seraient donc qualifiés pour l'heure. Et puis dans l'autre rencontre, Chelsea, Atlético Madrid, ce sont les Anglais qui mènent là aussi 1-0 et qui sont donc qualifiés. Le tirage au sort pour le tour suivant aura lieu le 19 mars, la semaine prochaine donc. La météo, Anissa Dadi, le temps demain sera encore très gris.
Oui, avec encore, Julien, de nombreux nuages bas dès demain matin sur la moitié nord du pays, le long de la façade atlantique. Là, nous avons un ciel un petit peu plus ensoleillé, tout comme au bord de la Méditerranée. Quelques averses hein, sont tout de même possibles demain matin sur la Corse et la Côte d'Azur. Dans l'après-midi, les brumes et les brouillards matinaux vont se lever, mais attention, ce n'est pas pour annoncer du beau temps, puisqu'en Occitanie, dans le Var et sur la Côte d'Azur, les pluies arrivent demain après-midi. Sur le reste de la moitié sud, le ciel alterne entre nuages et éclaircies, et puis une nouvelle perturbation arrive par le nord et le nord-est demain après-midi, avec des Hauts-de-France jusqu'aux frontières allemandes, en passant par la Champagne-Ardenne, l'Île-de-France ou encore la Bourgogne, des averses dans toutes ces régions, et même de la neige dans l'est à basse altitude. Les températures, elles baissent encore demain avec le retour des gelées matinales. Nous aurons moins 3 degrés à Embrun, moins 2 à Rodez, moins 1 à Nancy et Metz, 0 degrés pour Besançon et Strasbourg, 2 à Grenoble et Rouen, 3 pour Lyon, 5 à Paris, 7 à Dunkerque et 8 à Nice. Et puis dans l'après-midi, toujours de la fraîcheur avec 4 à 15 degrés, 4 pour Saint-Étienne, 6 à Clermont-Ferrand, 10 degrés pour Paris, 12 à Rennes, 14 à Bastia et 15 degrés pour Marseille.
Merci beaucoup Anissa Dadi.
Europe 1.
Restez avec nous dans un instant, toutes les infos de la bourse. Top à Wall Street avec Claire Lemaître de boursier.com, suivi de l'interview écho d'Emmanuel Duteil. A tout de suite sur Europe 1.
Europe Soir, le 22-22-30, Julien Pierce.
22h19 sur Europe 1, bienvenue à vous. Si vous venez de nous rejoindre, c'est l'heure de Top à Wall Street.
Retrouvez Top à Wall Street avec la qualité de la 5G Bouygues Télécom.
Toutes les infos de la bourse avec Claire Lemaître de boursier.com. Bonsoir Claire.
Bonsoir Julien.
Wall Street a réagi positivement ce soir aux annonces de la réserve fédérale américaine. Le Dow Jones offre même un nouveau record historique.
Nouveau record à 33 015 points. Le Dow Jones gagne 0,58%. Le Nasdaq lui avance de 0,4%. 13 525 points. Jérôme Powell, le patron de la Fed, a donc encore rassuré ce soir. Il a assuré que ses taux resteraient proches de zéro jusqu'à la fin 2023. Donc, une politique monétaire toujours très souple, malgré le rebond de l'économie américaine. La Fed pense que le produit intérieur brut des États-Unis devrait remonter de 6,5% cette année. Alors, les marchés obligataires se sont un peu calmés après ces annonces. Les valeurs technologiques ont retrouvé des couleurs. Facebook et Amazon gagnent plus de 1%. C'est plus compliqué pour Apple qui perd un petit 0,6%. Et puis du côté des devises, l'euro qui était stable avant la Fed, eh bien il s'envole de 0,7%, 1,1984.
À Paris, les investisseurs ont préféré ne prendre aucun risque avant le verdict de la Fed et du coup le CAC 40 clôture à l'équilibre.
Voilà, quasiment pas de changement pour le CAC avec une baisse symbolique de 0,01%, 6554 points. Les tensions sur le marché obligataire ont pesé sur les valeurs technologiques. Du rouge ce soir pour Capgemini, pour ST Microelectronics ou encore pour Soitec.
Le secteur automobile se distingue ce soir malgré des immatriculations toujours en baisse en Europe.
Le marché européen a de nouveau plongé en février. Pourtant, Renault est en hausse de 3%. Stellantis, né de la fusion de PSA et Fiat Chrysler, gagne 1,4%. Ça monte aussi pour les équipementiers Faurecia et Valeo. Le secteur bénéficie en fait suite des bons résultats de l'allemand BMW qui anticipe un doublement de sa marge opérationnelle cette année. Ailleurs, en Europe, les marchés ont terminé dans le désordre. Londres perd 0,6%, Francfort gagne 0,3%, Milan plus 0,1%, Madrid moins 0,7%, Amsterdam moins 0,4% et à Paris, le CAC 40 est stable à 6 554 points.
Merci beaucoup Claire Lemaître de boursier.com et à demain Claire. 22h21 sur Europe 1, on passe à l'interview éco. Emmanuel Dutheil, c'est à vous.
Bonsoir Gontran Turing.
Bonsoir.
Un grand merci d'avoir accepté l'invitation d'Europe 1. Vous êtes le directeur général du Conseil national des centres commerciaux. Si nous avons voulu être en ligne avec vous ce soir, c'est pour parler de ces éventuelles nouvelles fermetures, puisque aujourd'hui, Gabriel Attal, qui est le porte-parole du gouvernement, a dit que oui, il y aurait des décisions qui seraient prises pour les Hauts-de-France et pour l'Île-de-France. Et ces décisions doivent être annoncées demain soir à 18h, notamment par le Premier ministre Jean Castex. Vous avez déjà une bonne partie de vos centres commerciaux qui sont fermés. Vous vous attendez à quoi ?
Bon, comme vous l'avez déjà précisé, il y a 2/3 des centres commerciaux en France qui sont fermés, entre les plus de 5 000, les plus de 10 000, les plus de 20 000. Donc c'est vrai que si on devait s'orienter vers un confinement généralisé dans les régions de France et Île-de-France, qui comprennent d'ailleurs de nombreux centres commerciaux de toute taille, ça viendrait évidemment supprimer toute possibilité pour tout centre commercial d'ouvrir ses portes.
Ça doit être très dur en ce moment pour vos membres, parce que d'une semaine sur l'autre, ils ferment, ils referment, ils rouvrent. C'est tout bête, mais là, par exemple, pour ce week-end, parce qu'on sait que les mesures qui vont être prises vont être appliquées dès ce week-end, comment on fait pour prévoir ses stocks si on ne sait pas si on ouvre, si on n'ouvre pas ?
Effectivement, c'est assez compliqué à plusieurs égards. Bon, déjà, on a des seuils différents, 5 000, 10 000, 20 000. C'est pas toujours évident pour les consommateurs de s'y retrouver. Par ailleurs, ces mètres carrés concernent des mètres carrés de surface commerciale utile, donc à la fois des surfaces de vente et des surfaces de réserve. On comprend pas très bien pourquoi les surfaces de réserve sont concernées, puisqu'elles sont pas accessibles au public. Donc tout ça, effectivement, est assez compliqué. Qui plus est, on est prévenu en général avec 24 heures de préavis. Et c'est pas évident pour les commerçants des centres commerciaux de fermer et d'ouvrir un magasin avec des problèmes de personnel, avec des problèmes de stock en 24 heures.
Nous sommes mercredi soir, il est quasiment 22h30. Vous n'avez pas eu un seul contact. On ne vous a pas prévenu de ce qui pourrait vous arriver en Île-de-France ou dans les Hauts-de-France.
Alors, on a eu effectivement un call avec Alain Griset, le ministre des PME et du Commerce. Mais bon, la décision n'avait pas encore été prise. Je crois qu'on sait maintenant que la décision est prise en dernière instance par le président de la République. Donc il faut effectivement attendre ces annonces pour avoir confirmation de ce confinement.
Est-ce que vous dénoncez justement ce manque de concertation, puisqu'à chaque fois, vous, les centres commerciaux, vous êtes mis devant le fait accompli ?
Les préavis sont toujours très courts. Par ailleurs, les préfets qui appliquent ces décisions ne les appliquent pas toujours de façon uniforme en France. Donc la situation, je le répète, est parfois compliquée pour nous.
Dans quel état justement sont vos membres aujourd'hui ?
Bah, ils sont inquiets. Ça fait maintenant un an que nous connaissons cette crise. Les centres commerciaux ont déjà été fermés plus de 3 mois l'année dernière. Nous avons regretté la décision de retarder la date du début des soldes d'hiver. On pensait que ce n'était pas une bonne décision. Nous, on avait prôné effectivement que les soldes débutent comme d'habitude début janvier. Bon, les faits nous ont donné raison, puisque fin janvier, les centres commerciaux, en tout cas les plus grands d'entre eux, ont dû fermer et donc n'ont pas pu assurer cette période de solde jusqu'au bout.
On en est où aujourd'hui des discussions autour des loyers qui pourraient être supprimés de la part des bailleurs pour donner un petit peu d'air aux commerçants qui se trouvent dans les centres commerciaux ?
Alors, comme vous le savez, il y a plusieurs mesures de soutien qui ont été prises par le gouvernement et qu'on salue. Fin janvier, Bruno Le Maire nous a dit, et je reprends ces mots-mêmes, que les loyers et les charges locatives des commerçants dans les centres commerciaux qui allaient fermer, donc les plus de 20 000 m2, allaient être totalement indemnisés.
C'est le cas.
Alors, on a eu des discussions avec son cabinet. Comme vous le savez, la France est dépendante de décisions de la Commission européenne. Donc on croit savoir effectivement qu'un tel dispositif a été pré-notifié à la Commission. Il faut attendre maintenant le retour. Les points positifs, c'est que d'après ce que nous a dit Bercy, cette aide ne serait pas plafonnée, d'une part, et d'autre part, elle ne serait pas déterminée dans la durée, puisqu'aujourd'hui, ces centres sont effectivement fermés de façon indéterminée en termes de durée.
Est-ce que aujourd'hui vous vous sentez tout simplement suffisamment aidé ?
On est aidé, mais on se sent quand même mal aimé, c'est certain. On a l'impression que jusqu'ici, le gouvernement, pour éviter un reconfinement total, pour des raisons politiques, aussi économiques sans doute, ont cherché un certain nombre de mesures compensatoires. Et malheureusement pour nous, ça tombe sur les centres commerciaux de façon injustifiée, on le pense, puisque jusqu'ici, aucune étude scientifique sérieuse n'a prouvé que les centres commerciaux constituaient des clusters. Bien au contraire, l'Institut Pasteur vient de publier une nouvelle étude montrant que les commerces n'étaient pas des lieux de propagation du virus.
Est-ce que malgré tout, là, dans les centres commerciaux qui sont encore ouverts en France en ce moment, est-ce qu'il y a du monde ou est-ce que vous sentez que les gens ont peur parce que justement, les fermetures administratives qui peuvent être décidées vous donnent une mauvaise image de vous ?
Alors, depuis le début de la crise, ce qu'on a observé, c'est que la baisse de fréquentation était plus élevée que la baisse du chiffre d'affaires. Donc, c'est vrai que les gens, je pense, sont moins dans une envie de faire du shopping, du lèche-vitrine. Donc, je dirais que les visiteurs sont des acheteurs. Et puis, de façon générale, comme je vous l'ai déjà précisé, ces mesures, ces stop and go, ces mesures qui ne sont pas toujours très, très compréhensibles pour les consommateurs à propos des seuils de fermeture et d'ouverture, bon, tout ça fait, je pense qu'effectivement, ce n'est pas très bon pour le commerce. Vous savez, la consommation a un aspect très psychologique. Ce qu'on espère, bien entendu, c'est que les 200 milliards d'économisés annoncés par Bercy lorsque les centres vont rouvrir pourront se transformer en consommation.
Et là-dessus, vous avez des petites indications ? Les ministères que vous consultez vous donnent des pistes ?
On sait que Bruno Le Maire et le ministère de l'Économie travaillent effectivement sur un plan de relance. Donc on espère qu'il y aura des mesures propices à la relance de la consommation. On a observé lors des deux réouvertures de juin et de décembre que les consommateurs, lorsqu'on leur laissait la possibilité, revenaient vite dans les centres commerciaux et reprenaient leurs habitudes de consommation. Donc on espère bien entendu que lors de la réouverture prochaine qu'on espère définitive, ça sera effectivement le cas.
Merci beaucoup Gontran Turing. Je rappelle que vous êtes le directeur général du Conseil national des centres commerciaux. Un grand merci d'avoir accepté notre invitation. Nous, on se retrouve demain, 22h20.
Merci beaucoup Emmanuel Duteil. On vous retrouve également demain à 13h dans La France Bouge avec Elisabeth Assayag. Vous vous intéresserez au marché du lait avec votre invité, le directeur général de Candia.
C'était l'invité éco avec la qualité de la 5G Bouygues Télécom.
Restez avec nous dans un instant, on va découvrir ensemble les unes de la presse de demain. A tout de suite. 22h28 sur Europe 1 et voici donc ce que vous pourrez lire demain à la une de vos journaux qui sont nombreux, sans surprise, à consacrer leur première page aux annonces de Jean Castex attendues demain soir. Ouest France a sorti la calculette. Île-de-France plus Hauts-de-France égale 18 millions de Français qui pourraient être reconfinés. 18 millions de Français à qui l'on pourrait imposer un nouveau serrage de vie. C'est le titre de Libération dont l'édito pointe l'échec d'Emmanuel Macron. Le chef de l'État a perdu son bras de fer avec le virus et il ne parvient pas à s'y résoudre. Et encore moins à l'annoncer, écrit Alexandra Schwarzbrod, qui ajoute que de tergiversations, que de grands mots pour en arriver là, à la case départ ou presque. Il y a un an, Emmanuel Macron partait en guerre. Il se voit aujourd'hui contraint d'opérer un repli en race campagne. C'est l'impression de surplace qui mine le moral, ajoute Olivier Auguste dans l'Opinion. Médecins et politiques semblent souvent ne pas en savoir davantage qu'il y a un an où ils vont. Illustration avec cette confidence d'un ministre en première ligne. Ce compte virus, plus on lui met de vaccins, plus il mute. Autrement dit, on n'est jamais à l'abri d'une mauvaise surprise. On termine avec un tout autre sujet, beaucoup plus positif celui-là, et c'est Courrier International qui nous l'offre sur un plateau, ou plutôt dans une gamelle. Pourquoi les animaux nous font du bien ? C'est le titre à la une, accompagné d'une photo tordante. On y voit un petit chien, les yeux plissés, visiblement ravi d'être enveloppé dans une couverture. Depuis le début de la pandémie, le nombre d'adoptions de chiens et de chats a explosé parce qu'ils nous aident à supporter le confinement et nous réconfortent, ce qui visiblement n'a pas échappé à la presse étrangère, à lire donc demain dans Courrier International.
C'était les unes du lendemain avec la qualité de la 5G Bouygues Télécom.
Bonsoir Olivier Delacroix.
Bonsoir Julien.
3921 pour vous appeler et témoigner dans la libre antenne.
Exactement. Et 739-21 suivi du mot nuit, écrit d'être majuscule suivi d'un espace pour vos SMS. Et nous, on vous retrouve tout à l'heure Julien pour votre flash à 23h.
A tout de suite.